France Culture.
France Culture, le journal est présenté par Marie-Hélène Duvigneau.
Bonjour à tous, il est 9h. Entrée en vigueur aujourd'hui des premières dispositions du règlement européen sur l'intelligence artificielle. Tout en garantissant l'innovation, ce règlement vise à protéger les libertés fondamentales. Alors que François Bayrou confirme l'utilisation du 49.3 pour faire adopter le budget de l'État, le Haut Conseil pour le climat alerte le gouvernement. Dans un avis sur la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie, il pointe les leviers d'action indispensables qui ne semblent pas encore pleinement mobilisés. Au moment où un quatrième échange avait lieu hier entre otages israéliens et prisonniers palestiniens, un point de passage a été ouvert entre Gaza et l'Égypte, une première depuis mai dernier. Et puis, 67e édition des Grammy Awards ce soir à Los Angeles et quelques Français en compétition aux côtés des stars américaines. C'est ce dimanche qu'entrent en vigueur les premières dispositions phares du règlement européen sur l'intelligence artificielle. Un règlement qui se présente comme un équilibre entre encouragement à l'innovation et garantie de sécurité. C'est une première à l'échelle mondiale qui vise notamment à encadrer l'utilisation et le développement de l'IA dès lors qu'elle menace les libertés fondamentales. Fabien Cazot.
Plusieurs catégories de risques sont répertoriées dans ce règlement, dont les plus graves sont définies dans les chapitres qui entrent en vigueur ce dimanche. Il s'agit de l'utilisation de l'intelligence artificielle à des fins de désinformation massive, mais aussi à des fins de surveillance généralisée que l'IA pourrait permettre d'exercer à l'encontre des citoyens, un peu comme en Chine où les comportements sociaux sont évalués et donnent lieu à une notation établie notamment par algorithme. L'encadrement d'autres systèmes dits à haut risque attendra encore quelques mois, tout ce qui touche notamment à l'éducation ou encore aux ressources humaines. Les entreprises ou les administrations qui utilisent l'IA dans ces domaines se verront exigées de fournir une documentation technique sur leur système, devant inclure des mesures de gestion des risques. Les manquements constatés donneront lieu à des amendes pouvant s'élever au maximum à 35 millions d'euros ou 7% du chiffre d'affaires annuel mondial pour les entreprises.
Fabien Cazot à Bruxelles. C'était attendu. François Bayrou confirme dans un entretien à la Tribune dimanche qu'il utilisera le 49.3 pour faire adopter les budgets de l'État et de la Sécurité sociale. Les textes arrivent à partir de demain à l'Assemblée. Un pays comme le nôtre ne peut pas rester sans budget et le seul moyen, c'est d'engager la responsabilité du gouvernement, déclare le Premier ministre. À la question de savoir s'il craint une censure, il estime qu'elle serait rejetée avec colère par les Français. Et alors que la nouvelle copie du budget 2025 prévoit d'accorder 19 milliards d'euros de crédit à l'écologie, 2 milliards de moins qu'en 2024, et que la programmation pluriannuelle de l'énergie qui fixe les objectifs français en matière de production et de consommation pour les 10 prochaines années doit être finalisée et publiée en avril, le Haut Conseil pour le climat publie son avis sur cette feuille de route énergétique. Un avis plutôt critique, il alerte sur la stratégie lacunaire du gouvernement Loumomège.
Peut mieux faire. Voilà le bilan du Haut Conseil pour le climat qui rappelle que la transition énergétique ne doit pas être une variable d'ajustement budgétaire. Or, les propositions de cette programmation pluriannuelle de l'énergie sont présentées comme incomplètes. Le Haut Conseil pour le climat souhaite que le gouvernement soit plus précis avant publication finale. Comment concrètement mettre en place les mesures avancées? Quand et surtout avec quels moyens financiers? Exemple avec la sortie du pétrole prévue en 2045. Pour y parvenir, l'Union européenne a interdit la vente de voitures thermiques neuves dès 2035. Mais le Haut Conseil pour le climat rappelle que ces véhicules ont une durée de vie qui dépasse 10 ans, sans oublier que le sujet risque d'être très sensible. Or, en l'état, la PPE manque de mesures concrètes qui accompagneraient cette transition. Le Haut Conseil pour le climat met aussi le gouvernement face à ces contradictions. Alors que la sortie du charbon est prévue pour 2027, une centrale a été rouverte en Moselle en novembre dernier, sans nécessité particulière. Au-delà de ces alertes, l'instance énonce également 6 conditions de réussite indispensables à la décarbonation de nos énergies. Parmi elles, le développement accru d'une mobilité propre ou encore rendre la transition énergétique accessible à tous. Des conditions, en bref, qui impliquent des efforts financiers de la part du gouvernement.
Donald Trump met sa menace de guerre commerciale à exécution au risque de nuire à la croissance mondiale et de raviver l'inflation. Le président américain a imposé hier des droits de douane au Mexique, au Canada et à la Chine. Riposte immédiate, le Canada et le Mexique annoncent mettre eux aussi en place des taxes sur les produits américains. La Chine promet également de répliquer avec des contre-mesures et va contester la décision américaine auprès de l'Organisation mondiale du commerce. Des frappes russes massives sur l'Ukraine selon Kiev. Moscou a tiré tout au long de la journée d'hier 40 missiles, 39 bombes guidées, 739 drones explosifs sur le pays. Une des attaques les plus importantes depuis des semaines. Bilan, au moins 15 morts dans le centre et l'est de l'Ukraine. Les deux camps se rejettent par ailleurs la responsabilité d'une frappe qui a fait 4 morts dans la partie de la région russe de Koursk occupée par l'armée ukrainienne. France Culture, 9h05, le franco-israélien Ofer Calderon est libre. Il a été échangé hier avec deux autres désormais anciens otages, Yarden Bibas et Keith Siegel, contre plus de 180 prisonniers palestiniens. Prisonniers qui, pour la plupart, sont rentrés à Gaza. Au même moment, une nouvelle étape dans la trêve a été franchie avec, pour la première fois depuis mai dernier, l'ouverture d'un point de passage à Gaza, sous la surveillance non pas du Hamas, mais de fonctionnaires de l'autorité palestinienne appuyés, et c'est là aussi une première depuis 2007, par l'Union européenne. 50 habitants blessés et 53 accompagnants ont traversé la frontière au point de passage de Rafah, au sud de l'enclave, pour être soignés en Égypte. Le reportage de Rami Amalgari à Gaza et de Thibault Lefebvre à Jérusalem.
Le bus s'apprête à partir. Oum Khalil et son fils de 2 ans sont à l'intérieur. Le bébé souffre d'une malformation cardiaque et il fait partie avec sa maman des 103 premiers Palestiniens qui ont pu enfin sortir de Gaza après 8 mois de blocus total.
Mon Dieu, quel soulagement, c'est une merveilleuse surprise. J'espérais tellement. Quel bonheur, le petit va enfin pouvoir être soigné.
À côté d'Oum Khalil, beaucoup d'enfants atteints de cancer ou d'autres maladies graves, mais aussi des blessés plus âgés avec des séquelles irréversibles comme Alla. Cette jeune mère de famille est une survivante d'un bombardement israélien.
Je suis très heureuse. À l'étranger, ils vont pouvoir me poser des prothèses de bras. Quand je reviendrai, je pourrai enfin porter mon fils.
La liste des blessés est longue et tous les candidats au départ n'ont pas été retenus. Ahmed pensait être inscrit. Il restera finalement à Gaza.
J'ai un éclat dans l'œil, j'ai perdu la vue, j'avais l'espoir de me faire opérer. Mais au dernier moment, les Israéliens ont refusé d'accorder une autorisation à ma mère pour qu'elle m'accompagne. Et comme je suis mineur, je n'ai pas le droit de partir seul.
Selon le ministère de la Santé du Hamas, ils sont 12 000 dans l'enclave, comme Ahmed, à avoir besoin d'une prise en charge médicale immédiate.
Et alors que les négociations indirectes avec le Hamas sur la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu reprennent demain à Washington, l'armée israélienne annonce ce matin avoir tué plusieurs terroristes lors d'une opération militaire en cours dans le nord de la Cisjordanie occupée. Un sujet plus léger avant de refermer ce journal. Le gratin de la musique américaine est réuni ce soir à Los Angeles pour la 67e édition des Grammy Awards. La chanteuse Beyoncé part favorite avec 11 nominations. Mais aux côtés des stars américaines se sont glissés quelques Français, oui. Le groupe Gojira, la chanteuse lyrique Marina Viotti et le compositeur Victor Lemann concourent dans la catégorie meilleure performance métal de l'année. Et ce pour le spectaculaire tableau donné lors de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Louis-Valentin Lopez.
Les aristocrates, on les pendra !
Une Marie-Antoinette décapitée qui entonne un chant révolutionnaire, puis déluge de flammes sous la pluie devant la conciergerie, le groupe de métal Gojira perché aux fenêtres et la mezzo-soprano Marina Viotti qui débarque sur un bateau en bois.
Je me souviendrai toute ma vie de ce moment. Sur le moment, j'ai senti des flammes dans mon dos, j'ai entendu des bruits de canons, je me suis pris des centaines de confettis dans le visage en plein titre. Et après, je suis descendue du bateau. Et je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'on vient de faire ?
Un tableau d'autant plus symbolique pour la chanteuse qu'il a marié opéra et métal, deux univers qui lui sont chers.
Pour moi, ce sont deux univers épiques, théâtraux et très très avancés musicalement. Et donc forcément, ça peut que fonctionner en fait. Je crois que maintenant, on en a la preuve, les 2 milliards de personnes sont d'accord avec ça. Je voyais la plupart des commentaires, c'était « moi, j'écoute pas de métal ou d'opéra » et en fait, je trouve qu'ensemble, c'est génial. »
Résultat, une nouvelle nomination aux Grammys pour Gojira, déjà nommée 3 fois ces dernières années mais jamais récompensée. Pour Marina Viotti, c'est une première.
Pour moi, c'était réservé à des musiques mainstream, donc j'ai jamais même pensé un jour être nominée à un Grammy. C'était une immense fierté, une immense joie. Ça récompense une prise de risque, ça récompense un message rien que le fait qu'on soit là avec ce titre-là et ce tableau-là, ben, c'est un beau message pour le monde dans lequel on est.
Alors les Français concourent face à des poids lourds, Judas Priest ou encore Metallica, mais comme le dit Marina Viotti, être nommé est déjà une victoire.
La chanteuse de jazz française Cyril Aimé sera aussi en lice avec son album à fleur de peau dans la catégorie meilleur album de pop vocal traditionnel. Le temps aujourd'hui ensoleillé après dissipation des grisailles matinales. Les températures au meilleur de la journée, 6 à 9 degrés sur la moitié nord et les Alpes, 10 à 13 dans le sud-ouest, 12 à 17 sur les régions méditerranéennes.